La mort ou la réalité occultée. Le sujet que nous abordons ici est un sujet que nombre de gens rechignent souvent à aborder et dont même personne n'aime pas entendre parler. Il s'agit de la mort. Il est consternant de voir comment une personne croyant en Allah et en son messager rechigne à parler de la mort ou se sent mal à l'aise à chaque fois que le sujet est abordé. Pourtant, notre messager sallallahu alayhi wa sallam a dit: rappelez-vous constamment du destructeur des plaisirs et du diviseur des groupes, car chaque fois que nous l'évoquons devant une grande quantité, celle-ci s'amoindrit, et chaque fois que nous l'évoquons devant une petite quantité, celle-ci prend de l'ampleur. C'est-à-dire que chaque fois que la mort est évoquée devant une grande quantité de péchés, de déviances et de passions, cela a pour effet de les amoindrir en nombre. Et chaque fois qu'elle est évoquée devant une petite quantité d'œuvres pieuses et d'actes de culte, cela a pour effet de leur donner plus d'ampleur. Se souvenir de la mort tout en connaissant sa réalité est de nature à limer les griffes de l'iniquité et à briser les crocs de l'injustice et de la tyrannie. Se souvenir de la mort tout en connaissant sa réalité est de nature à éradiquer la corruption sous toutes ses formes au sein de la société. Se souvenir de la mort tout en connaissant sa réalité est de nature à soigner les mœurs. Qui pourrait bien nous indiquer un moyen permettant de soigner les mœurs de société? Combien de chercheurs en sciences sociales aimeraient trouver cette recette? Comment les sociétés, tant les individus que les collectivités, pourraient-elles se parer de valeurs humaines morales si elles se détournent de la mort, l'ignorent et oublient qu'elles ont un rendez-vous avec elles? C'est pourquoi l'élu, notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: rappelez-vous constamment le démolisseur des plaisirs et le diviseur des groupes, car chaque fois que nous l'évoquons devant une grande quantité, celle-ci s'amoindrit, et chaque fois que nous l'évoquons devant une petite quantité, celle-ci prend de l'ampleur. Le souvenir de la mort est le frein qui nous permet d'avancer sur une pente l'esprit tranquille, sans craindre de tomber, de nous écraser et de périr. Chacun sait que lorsque l'on s'apprête à s'engager sur une pente, on s'assure, avant de se lancer, d'avoir un frein pour réguler la progression. Pour cette raison précise, le Verbe divin fait preuve d'une étonnante précision lorsqu'il cite la mort avant la vie. Alors que nous savons tous que la mort, aussi bien au plan de son apparition matérielle qu'au plan chronologique, ne vient qu'après la vie. Mais Allah Ta'ala veut nous enseigner le fait que la mort, bien qu'intervenant après la vie, est le frein qui garantit la sécurité de l'homme dans son cheminement vers Allah. C'est pourquoi il dit dans le noble Coran, ce qui peut se traduire par « Gloire à celui qui détient la royauté, il est omnipotent, celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver pour voir qui parmi vous accomplira les meilleures œuvres. C'est lui le puissant, le pardonneur. » Sourate 67, versets 1 et 2. Aborder le sujet de la mort met mal à l'aise toutes ces personnes grisées qui se vautrent dans leurs désirs et leurs passions et qui rivalisent d'avidité pour ramasser les débris insignifiants de ce bas monde terrestre. Nous devons écouter ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit à ces gens qui détestent la mort et avec laquelle ils ont un rendez-vous. Allah Ta'ala n'a-t-il pas dit: dis, la mort que vous fuyez va certes venir à votre rencontre. Verset 8 de la sourate 62. Et il a aussi dit: toute âme goûtera la mort, mais c'est seulement au jour de la résurrection que vous recevrez votre entière rétribution. Verset 185 de la sourate 3. Et aussi le verset 38 de la sourate 39: certes, tu mourras et ils mourront également. Mais qu'est-ce donc que la mort? Quelle est donc cette mystérieuse raison qui fait que beaucoup de gens n'aiment pas en entendre parler et sont mal à l'aise lorsqu'elle est évoquée? Beaucoup de gens s'imaginent que la mort est un néant, à l'image d'une lampe qui éclairerait une pièce habitée, puis qui s'éteint, plongeant la pièce dans une obscurité totale. La mort est-elle ainsi? Certainement pas. Cette conception de la mort est une contagion qui nous est parvenue de l'Occident. En effet, nombreux sont les mythes et les chimères qui nous sont parvenus de l'Occident et que nous adoptons avant avec fierté. Pour les Occidentaux, la mort, c'est le néant. C'est pour cette raison que l'on dit aujourd'hui qu'un tel a été condamné à l'anéantissement, pour dire qu'il a été condamné à mort. Mais en réalité, la mort n'a jamais été synonyme d'anéantissement. Donc, qu'est-ce que la mort? La mort, c'est la troisième partie d'une série de quatre étapes prescrites par Allah Ta'ala et que l'homme doit traverser au cours de sa vie. Ô fils d'Adam, tu as rendez-vous avec quatre étapes tout au long de ta vie. La première étape, c'est l'étape de la vie fœtale pendant laquelle le fœtus est dans le monde utérin. La deuxième étape est la vie terrestre dans laquelle nous évoluons aujourd'hui. La troisième étape est la vie d'outre-tombe avec laquelle nous avons rendez-vous incessamment. Et la quatrième étape et la dernière étape, c'est la vie dans l'au-delà. Sachez que chacune de ces quatre étapes est plus consistante et plus étendue que celle qui la précède. Maintenant, analysons le problème d'un point de vue scientifique afin que nous comprenions que ces gens qui rechignent à parler de la mort et qui la fuient sont ainsi parce qu'ils vivent dans des nids de légendes. Quant à nous musulmans, nous fuyons les légendes au profit des réalités scientifiques. L'homme a deux dimensions, qu'il vive à la surface de la Terre, dans la vie terrestre, ou dans les entrailles de la Terre, dans la vie d'outre-tombe. Dans ces deux situations, il a deux dimensions. Il est constitué d'un corps et d'un esprit. Dans le monde terrestre où nous vivons actuellement, l'esprit est prisonnier de son enveloppe charnelle. L'esprit qui nous anime ne peut se mouvoir que dans la limite de la mobilité du corps. Lorsque nous passons à la vie d'outre-tombe, la situation s'inverse. Le corps devient dépendant de l'esprit. L'esprit s'affranchit de la prison où il était retenu tout au long de notre vie terrestre. Il ressemble alors à ce soleil rayonnant en plein jour. Il est détaché de la terre dans son essence, mais il lui est relié par ses rayons. De même, l'esprit du défunt est détaché de son corps dans son essence, mais il reste relié à lui, quel que soit son emplacement et malgré la dispersion de son rayonnement. Ainsi se réalise le sens du supplice de la tombe que peut subir l'être humain, mais aussi la félicité de la tombe qu'il peut connaître. Le verbe divin est donc parfaitement véridique lorsqu'il relate dans la sourate Yassin l'histoire de cet homme croyant qui exhortait son peuple à croire en Dieu et qui a été assassiné. Il dit, et on lui dit, entre au paradis. Il dit, ah, si seulement mon peuple savait que mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des bienheureux. Versets 26 et 27 de la sourate Yassin. Est-ce que ceci se réalise-t-il le jour de la résurrection? Non. Ceci se réalise durant la vie d'outre-tombe. La preuve en est cette parole prononcée par ce croyant. « Ah, si seulement mon peuple savait que mon Seigneur m'a pardonné et mis au nombre des bienheureux. » Le verbe divin est tout aussi véridique lorsqu'il évoque le sort de Pharaon et de son parti. C'est la sourate 40, verset 46. « Ils sont exposés au feu matin et soir. Et le jour où l'heure arrivera, il sera dit, faites entrer le parti de Pharaon au plus terrible des supplices. La mort n'est pas le néant. La mort est une existence encore plus consistante, plus étendue et plus effective que la vie que nous menons ici. » Wa Allahu a'lam.